Venus d'Orient, nos histoires, nos vérités.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Venus d'Orient, le podcast qui donne la parole aux personnes issues de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale en France. Moi, je m'appelle Nawel Alamouchi, je suis journaliste pour Radio Orient et je suis très heureuse d'accueillir pour ce nouvel épisode Saliha Sadek, qui est avocate au barreau de Toulouse. Saliha, elle est issue d'un milieu modeste. Elle a grandi à Albi, dans le sud de la France. Elle raconte dans cet épisode son parcours qui a été jalonné d'obstacles. Elle revient également sur la complexité de sa double appartenance entre la France et l'Algérie. Bonjour Saliha.
Bonjour Nawel.
Vous avez débarqué à Albi avec vos parents, une famille algérienne qui est venue chercher en France ce qu'elle n'avait pas trouvé de l'autre côté de la Méditerranée, un avenir pour ses enfants. Mais votre parcours, il a été semé d'embûches. Avec la fugue de l'Oranger, vous entraînez le lecteur sur les traces de toute une vie, celle d'un enfant immigré devenu femme avocate et désormais autrice qui transforme aussi la douleur en force. Je vais vous lire un extrait de votre livre. J'ai vécu les premières années de ma vie en France dans un taudis. J'ai fait mon entrée au CP dans un HLM. Nos voisins sont partis les uns après les autres. D'autres sont devenus toujours plus pauvres. Ma mère voulut quitter cet immeuble où les vies s'empilaient, mais avec ses petits bulletins de paie, les banques lui fermèrent les portes. Saliha, quel souvenir vous gardez de votre enfance en France ?
J'ai toujours été une enfant heureuse, joyeuse. Et optimiste. J'ai toujours su récolter les sourires, reconnaître les bonnes rencontres, des personnes bienveillantes, empreintes de beaucoup de sollicitude. Et c'est comme ça que j'ai fait mon chemin. Je n'ai pas toujours eu l'amour qu'on doit donner à un enfant, mais j'ai eu de l'amour. J'ai eu suffisamment de réassurance pour faire de moi aujourd'hui une adulte psychologiquement stable et qui n'a pas de faille importante dans sa personnalité.
Mais vous dites quand même dans votre livre que vous êtes née avec de la colère. Elle vient d'où cette colère ?
La colère, c'est une source de vie. Quand on sait quoi en faire, ça peut être une énergie positive. Oui, je suis née avec de la colère de voir que mon père ne faisait rien à la maison, que ma mère s'évertuait à faire plein de choses, qu'elle ne savait ni lire ni écrire et qu'il fallait qu'elle s'adapte à un nouveau pays. Je suis née en colère d'avoir, de vivre dans un appartement où il n'y avait pas les toilettes, où on devait manger, non pas en payant avec de l'argent, mais en payant avec des bons pour s'acheter du lait, du pain et des œufs. Donc j'ai compris très, très, très tôt que je n'étais pas partie avec toutes les chances dans la vie. Et puis après, j'ai quitté les bras de ma mère aussi très tôt, puisque j'ai mon frère qui est né 2 ans et demi après moi, qui avait des soucis de santé. Donc j'ai été livrée à moi-même très tôt, même si j'avais des sœurs qui étaient plus âgées que moi et auxquelles je me suis identifiée. Mais j'ai cherché de l'amour, en fait, tout le temps. Cherché de la bienveillance tout le temps, dans les yeux des instituteurs, des institutrices, du curé de la paroisse. J'ai pris l'amour où il était, je me suis abreuvée à cet amour-là.
L'école, justement, prend aussi une place importante dans votre ouvrage. Est-ce que pour vous, ça a été un lieu d'émancipation ? Un lieu, en tout cas, où vous pouviez être vous-même ?
Déjà sortir de l'appartement HLM où on était tous les matins pour aller à l'école, pour moi c'était une grande joie parce que l'école c'était un lieu de sécurité où il y avait d'autres camarades, où je pouvais oublier ce qui se passait à la maison, où je pouvais jouer au foot, à l'élastique, à la corde. J'ai toujours su que ma liberté, oui, viendrait des études, de la lecture, de la persévérance, etc. etc. Oui.
Vous parliez tout à l'heure de votre mère,
oui.
Qui est analphabète.
Oui.
Est-ce que ça a aussi compliqué votre parcours scolaire ?
Donc, ma mère, elle a eu un parcours très compliqué parce qu'elle a été mariée très jeune la première fois. Elle avait 13-14 ans. Et quand son père est mort pendant la guerre d'Algérie en septembre 1959, elle a fui son premier mari. Elle est revenue chez sa mère, donc récupérer une adolescente, on va dire, répudiée ou divorcée, c'était compliqué dans les années 60 en Algérie. Donc, elle a été confiée au frère de mon grand-père maternel, Djileli, qui avait perdu d'ailleurs sa jambe pendant la guerre 39-45, puisqu'il était dans les troupes françaises. Donc, elle est allée faire la nounou et femme de ménage chez Djileli. Ensuite, elle s'est mariée avec avec mon père, qui n'était pas, on va dire, le meilleur parti, qui était un homme particulièrement inconséquent, qui n'était pas fait pour être un père de famille. Elle a vécu quelques années seule, puisque mon père est venu avant nous en France. Nous, on est arrivés en 1973. Donc, ma mère, en Algérie, elle n'a jamais été scolarisée. Jamais, jamais, jamais. Elle est née en 1943. Ses frères et sœurs ont été scolarisés. Son grand malheur à elle, ça a été d'être une fille et la fille aînée dans la famille. Donc, elle était analphabète en arabe et analphabète en français. Donc, quand elle est arrivée en France, comme une femme aveugle, et c'est grâce à mes sœurs qui sont plus âgées que moi, qui ont appris à lire et à écrire le français, qu'elle a ouvert son regard sur le monde. Après, dans les années 70, il y avait vraiment beaucoup de bienveillance, surtout que nous, on a atterri dans une ville à dimension humaine, Albi. Donc, il y avait beaucoup de soutien des voisins, des assistantes sociales, du médecin, même de la gérante de la supérette. Il y avait vraiment une chaîne, on va dire, de sourire et de bienveillance. Donc, ma mère, petit à petit, elle a ouvert les yeux avec nous et elle s'est émancipée avec nous. Donc, pour mon père, c'était une guigne d'avoir trois filles d'affilée. Et pour ma mère, au départ, c'était une guigne aussi, c'était une malchance. Mais au fur et à mesure qu'elle a avancé dans les années, qu'elle s'est ouverte à la société française, pour elle, avoir trois filles d'affilée, c'était une chance. Et elle a compris l'importance des études pour nous, parce que même si elle n'avait pas de bagage intellectuel, elle avait quand même un bagage humain et elle savait ce qui était bon pour nous. Elle a fait les ménages chez des avocats. Elle m'a introduite, moi, chez les avocats. J'ai fait des stages chez eux. J'ai regardé comment c'était chez eux, les bibliothèques, les livres, la culture, la musique, etc. etc. Donc, ça m'a ouvert l'esprit à beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand on a un enfant pauvre, je dirais, et puis pauvre en colère, mais aussi respectueuse, bien, on sait se saisir de toutes les chances que vous offre la vie. Et moi, mes plus grandes chances, c'est les rencontres que j'ai pu faire, qui ont été comme des arbres dans une forêt où je me balançais d'arbre en arbre et chaque arbre me permettait de devenir un peu plus grande et un peu plus riche humainement et intellectuellement. Je dis ça avec toute la modestie du monde, évidemment.
Sur votre rapport à la pauvreté, aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez aussi pris l'ascenseur social, comme on peut le dire. Mais j'ai aussi l'impression, lorsque je lis vos livres, qu'il y a toujours cette inquiétude d'être pauvre, finalement. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors moi, je dis toujours que j'ai une maladie qui s'appelle le syndrome de l'enfant pauvre. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai avancé dans la vie. Je vis très, très bien maintenant. Je suis classe moyenne plus. Mais tout ce que je le fais avec beaucoup de réflexion. J'ai un rapport à l'argent qui est très raisonné et raisonnable. Voilà, je suis maman, j'ai une fille qui a 17 ans, je lui offre plein de choses. Si elle a besoin de prendre des cours de maths, des cours de physique, etc., pour qu'elle puisse réussir dans ses études, oui. Mais quand je vais dans des boutiques, s'il y a une paire de chaussures à 300 € qui me plaît, je vais y réfléchir longtemps et je vais faire la ronde de toutes les boutiques. Je vais essayer de trouver la paire qui ressemble le plus, mais qui coûte un tiers moins, on va dire.
Saliha, on va parler de votre double identité. Bon, je vais lire un extrait de votre livre où vous dites « Je me sens française, mais dans l'esprit des Français, je ne le serai jamais tout à fait. Je suis trahie par ce H, ce K et ce visage. On me demande toujours d'où je viens. Alors je réponds, je viens d'Albi, dans le Tarn. Je suis l'arabe que l'on aime bien, car je maîtrise le verbe et j'ai un statut. » Aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez ?
C'est une très bonne question. Je suis... La France et l'Algérie, pour moi, c'est la même femme. Voilà. Mais je me suis abreuvée au sein de... Il y a un sein français et un sein algérien. Et je sais téter à chacun de ces deux seins. Voilà. Mais j'ai la fierté d'être algérienne parce que d'abord j'y suis née et je ne suis pas née en Algérie par hasard, je pense. J'y suis née, ça a fondé ce que je suis, ça a fondé mon destin. Mais au final, l'Algérie m'a très peu donné. Elle m'a vraiment très, très peu donné. Elle m'a donné mon nom, elle m'a donné mon prénom, elle m'a donné une partie de mon histoire. Je me raccroche beaucoup à mon grand-père maternel qui est mort à 44 ans. Il a été assassiné en Algérie en 1959. Donc ça, c'est une part de mon histoire qui fait que je suis très en colère et en même temps très fière d'être algérienne. Mais la mamelle, entre guillemets, ou le sein qui m'a le plus donné, c'est la France. Je n'aurais pas eu la même vie, je pense, si j'avais grandi en Algérie, parce qu'on était issus d'une petite ville en Algérie où les esprits sont étriqués. Moi, mes cousines qui sont restées dans cette ville et qui sont du côté de mon père, elles n'ont pas franchement évolué. Donc, je remercie la France, justement, d'avoir grandi en France et je remercie l'école républicaine d'avoir fait de moi, ben, justement, un pur produit de l'école républicaine. Moi, je ne crache pas sur la France. Je crache pas sur la France et j'aime viscéralement la France comme j'aime aussi viscéralement l'Algérie. Mais j'ai 52 ans aujourd'hui. Et si rétrospectivement, si je regarde et si je fais le calcul de tous mes voyages en Algérie, j'ai dû à tout casser, y passer peut-être une année en continu. J'avais une Algérie rêvée. Quand j'ai eu mon baccalauréat, première année, deuxième année de fac à l'université de Toulouse, bon, il y avait problème de racisme, de regard, etc., etc. Donc moi, je me suis inventé peut-être une Algérie rêvée. Je me suis dit, ben, peut-être que je serais mieux en Algérie si à la fac de droit de Toulouse, on n'accepte pas trop les gens issus de l'immigration. Et après, on est entré dans la décennie noire et ce rêve-là, je l'ai différé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas du tout mon rêve. C'est une chimère, mais ce n'est pas mon rêve. Enfin, je ne vivrai pas bien en Algérie parce que là, la France, la littérature française, la politique française, l'histoire de France m'ont amené à avoir une perception différente et une idée de la liberté. Moi, je rêve de liberté totale.
Saliha, on va revenir justement sur une étape qui a été assez importante. C'était la faculté, c'était l'école des avocats. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette période ? Et j'ai une deuxième question. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Pourquoi devenir avocate ?
J'ai toujours voulu être avocate, plus loin que je me souvienne. Même quand j'étais à l'école élémentaire, je ne sais pas trop à quoi ça correspondait. Je regardais des films et j'aimais bien ces gens-là qui se mettaient en avant. Regardais des séries américaines, hein, Objection Votre Honneur. Moi, j'adorais ça. Enfin, au fil des ans, mes idées se sont quand même affinées. Je fréquentais beaucoup les bibliothèques. Je me souviens que j'avais réussi à m'abonner à certains hebdomadaires. J'aimais bien l'histoire des avocats. J'avais besoin, en fait, même si je ne sais pas me défendre moi-même, je voulais que ma parole ou ma voix forte puisse défendre d'autres personnes. Donc, quand je suis arrivée à la fac de droit de Toulouse, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai perçu un certain sectarisme. On voyait très bien que les gens bien nés d'un côté qui avaient leur entre-gens ou leur entre-soi, et puis nous, en plus, moi, je venais d'une petite ville d'Albi. Il y avait l'extrême droite qui était quand même assez présente à l'époque à la fac de droit de Toulouse avec l'UNI, le GUD, etc., etc. Donc, il fallait faire très, très attention. Et je me suis beaucoup intéressée au droit pénal, qui est pour moi un droit politique. On va défendre quelqu'un qui est en prison, qui est en garde à vue, qui est privé de tous ses droits, et puis on va venir le voir, et puis on va essayer, enfin, par notre présence, de porter sa voix et de faire en sorte que ses droits soient respectés. La voix que je veux porter, c'est la voix que j'aurais voulu donner, je pense, à ma mère en étant enfant. Je pense que quand elle subissait des violences, moi, je ne savais pas parler. Je mettais la main sur les oreilles, je criais. Ou alors après, on a appris à appeler la police. Puis après, avant que je parte à l'université à Toulouse, on ne voulait pas laisser ma mère avec mon père. Donc, on a, avec l'une de mes sœurs, saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Albi pour demander un avocat commis d'office. Et il fallait que cette séparation soit actée. Donc, c'est la voix que j'ai donnée à ma mère. C'est une histoire de voix, en fait. Le choix d'être avocat, c'est une histoire de voix. C'est une histoire de prêter sa voix à quelqu'un. Et je pense que je suis moi-même quand je prête ma voix à quelqu'un.
Saliha, pourquoi ce livre ? Pourquoi La Fugue de l'Oranger ? Est-ce que vous cherchez une forme de réparation ?
Ce livre, en fait, c'est une psychothérapie, hein, c'est une psychanalyse. Hein, donc, la fugue, c'est la fuite. C'est un morceau de musique aussi. L'Oranger, c'est parce que c'est Mohamedia, c'est la ville des oranges. C'est promener ou déambuler dans Mohamedia, il y a des orangers partout. Donc c'est la fugue de l'oranger, c'est quitter Mohamedia. Après, ce n'est pas un livre en réalité que pour parler de moi, c'est un cadeau que je fais aux, aux autres femmes. Je ne dis pas que mon parcours, il est exceptionnel, il est extraordinaire, hein, il est humble, il est modeste. C'est mon parcours à moi, mais c'est un parcours cathartique et en même temps, c'est un parcours de résilience. Je dis toujours qu'en fait, avec mes blessures d'enfance, j'ai toujours marché à cloche-pied, avec un seul pied par terre. Et au fur et à mesure des années, ben, j'ai appris à poser l'autre pied et donc à être plus stable et à créer véritablement un socle. Donc, ce livre, moi, il ne m'appartient plus. Hein. Je le donne. Qu'il se vende ou qu'il ne se vende pas, en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'il soit sorti de moi et qu'il puisse, je ne sais pas, servir à d'autres personnes, leur donner des conseils, de l'assurance, dire que la vie, c'est un long chemin et qu'on peut avoir vécu des vicissitudes, on peut avoir été ancré pendant une certaine période dans le malheur. Ben, c'est pas grave, il faut persévérer, il faut s'accrocher.
Tout à l'heure, vous parliez d'autres femmes. Vous parliez de femmes franco-maghrébines qui pourraient se retrouver dans votre livre.
Oui. Oui, oui, les femmes franco-maghrébines, là, on essaie de nous faire entrer dans des carcans, dans des schémas sociaux. Il faut être comme ça, il faut croire comme ça. Tout ce que vous faites, c'est haram, etc., etc. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. J'ai essayé de rentrer dans ça. Je me suis mariée. Je me suis mariée tardivement. J'avais 33 ans. Je me suis dit, Saléha, en fait, il faut que tu fasses comme tout le monde. Il faut que tu te maries, il faut que tu rentres dans le rang, il faut que tu aies des enfants, etc., etc. Puis après, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas du tout pour moi, tout ça. Ce n'est pas du tout pour moi. Je n'ai pas besoin qu'on me dirige, qu'on me dise comment penser la religion, comment penser la foi, comment penser le rapport aux hommes, comment penser le travail. Je me suis battue toute ma vie pour être libre et pour bâtir mon identité. Donc, ce n'est pas une personne qui vient de l'extérieur, là, que je connais depuis quelques mois, qui va avoir un tel retentissement sur ma personnalité. Ça, je ne veux pas. Et avant, je ne savais pas le dire. Et maintenant, j'ai compris que j'avais besoin de le dire. Si ma mère est décédée il n'y a pas très longtemps. Elle est décédée, le 22 janvier dernier. Et nous, on est trois filles, donc on était ses filles. Et lors de ses obsèques au cimetière de Courneuve-Barrieux, donc dans la banlieue toulousaine, on nous disait qu'il ne fallait pas approcher de la tombe parce qu'on est des femmes. Moi, c'est des conneries. C'est vraiment des conneries. C'est ma mère. Enfin, moi, c'est une femme que je connais depuis 52 ans. Et je la connaissais plus que tous les hommes qui étaient autour. Mais parce qu'eux, c'était des hommes et parce qu'ils avaient les attributs masculins et que moi, je ne les ai pas. Enfin, c'est comme si j'étais impure pour me rapprocher de la femme que j'ai le plus aimée de toute ma vie. Le plus grand malheur de ma vie, ça a été de perdre ma mère. Le plus grand bonheur de ma vie aussi, c'est d'avoir eu la chance de la connaître jusqu'à l'âge de 52 ans. Ma mère, c'était une très, très bonne mère. C'est juste qu'elle a fait comme elle a pu. Elle a fait avec les outils qu'elle avait. Et au fur et à mesure, elle nous a donné de plus en plus d'amour, de confiance en nous-mêmes, de réassurance, etc., etc. Même si elle est analphabète illettrée, elle avait une intelligence de la vie incroyable. Vraiment incroyable. À une époque, à un moment donné, elle avait un problème avec ses employeurs parce qu'elle était femme de ménage. Et quand elle a dépassé la cinquantaine, ils voulaient se débarrasser d'elle. Donc, ils lui faisaient plein de crasses, plein de petites vacherie, on va dire, et bon, j'en avais marre, c'était ma mère. Et ben, j'étais pas encore avocate, j'étais étudiante, et ma mère, elle m'a dit, il faut vraiment que tu viennes me défendre. Je lui ai dit, ok, je vais venir te défendre. Elle m'a dit, mais si tu veux venir me défendre, prends ton cartable, ça fera plus sérieux. Je lui ai dit, ben, écoute, ok, je vais venir avec mon cartable. Et quand je suis allée rencontrer ses employeurs, j'ai mis mon cartable sur la table. Et je leur ai dit, vous allez me regarder à moi parce que maintenant, c'est avec moi que vous allez parler. Et on est dans un état de droit, il y a le droit du travail. Donc, ce n'est pas parce qu'elle sait ni lire ni écrire qu'il faut piétiner ses droits. Voilà. Le personnage le plus important de ma vie, c'est ma mère. Elle est partie. Elle est partie et je suis perdue depuis qu'elle est partie. Mais je continue à avancer parce que je me dis... Elle a quitté sa mère à 30 ans quand elle est arrivée en France. Toi, tu as eu de la chance de l'avoir jusqu'à 52 ans. Elle t'a donné les armes pour avancer dans la vie. Et puis moi, je suis très croyante. Je suis fondamentalement croyante. Je ne crois pas vraiment à la liturgie, toutes les religions monothéistes. Je revendique mon droit de croire comme je veux, moi, et je revendique mon droit de croire en toute liberté.
Si vous aviez un message ou un conseil à transmettre à une jeune femme qui vous ressemble, ce serait lequel ?
Alors, j'espère qu'elle ne me ressemblera pas tout à fait. Hein.
Dans le parcours, en tout cas.
Oui. Il faut croire en son instinct, en son intuition. Il ne faut pas écouter les autres. Il faut faire son propre chemin. C'est comme quand on fait 100 mètres. En fait, quand on démarre, on a chacun son couloir. Ben, si on passe notre temps à regarder à droite et à gauche des autres coureurs, on n'avance pas. En revanche, si on regarde son propre couloir et la ligne d'arrivée, on progresse et on avance. Et il ne faut pas avoir peur dans la vie de perdre du temps. On ne perd jamais de temps. Moi, j'ai eu un parcours sans faute. Après, j'ai fait une dépression. Donc, ça m'a stoppé en plein vol. Et je suis partie de coureur de vitesse à coureur de fond. Mais au final, je préfère être un coureur de fond parce que je dose mieux ma respiration.
Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre.
Merci à vous de m'avoir invité.
Venu d'Orient, nos histoires, nos vérités.